mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et pour notre équipe qui anime cette émission aujourd'hui, bah c'est la rentrée, c'est même notre 69e émission, émission 69.
Ouais, l'émission érotique.
On verra ça, mais c'est toi Jean-Marc justement qui va nous le prouver avec tes chroniques d'actualité. Et la première s'appelle 5 sur 5.
Eh oui, c'est pas 69, c'est 5 sur 5, je suis désolé. Alors, à l'heure où tout est communication et pédagogie, d'après les politicards ou politocards comme on veut qui nous gouvernent, certains chiffres sont plus parlants que toutes les poudres de perlimpinpin de l'Élysée. Un Français sur 5, dans la cinquième économie mondiale, ce qui explique le titre 5 sur 5, ne mange toujours pas à sa faim tous les jours. Un jeune sur 5 connaît la pauvreté. Une personne sur 3 qui relève des minima sociaux ne dépose pas de dossier faute d'ordinateur, faute de domicile fixe, faute de services publics et surtout d'agents publics qui pourraient les y aider. Pendant que le gouvernement poursuit le dégraissage de cette même fonction publique, étouffe les collectivités locales, la seule réponse « sociale » entre guillemets de ce gouvernement est de préparer une énième réforme injuste des retraites et de mettre en place un système dégressif d'indemnisation des chômeurs, plus rapide encore, doublé de directives visant à priver de plus en plus de chômeurs des dites indemnités. D'ailleurs, il faut remarquer que pour remplacer Benalla, qui a été exfiltré pendant l'été, Macron a recruté quelqu'un de très intéressant, le numéro 2 de Pôle emploi, qui justement avait été chargé de mettre en place toutes les procédures d'éviction. Alors, s'il refuse deux offres consécutives, ces horribles chômeurs qui coûtent tellement cher à la société, sachant, humour suprême, qu'un document interne de Pôle emploi est sorti justement fin août, et qu'il montrait, ce document, qu'une annonce sur deux, présentée par l'institution qu'est Pôle emploi, était soit bidon, soit illégale carrément. Donc, selon les métiers et les régions, on appelle ça pudiquement, en termes de Pôle emploi, des annonces non viables. Donc, on vous vire des statistiques du chômage après deux refus, sachant qu'il y a une annonce sur deux qui n'est pas viable. Si l'on ajoute à cela le régime sec pour les retraités, la baisse relative des salaires et quelques autres points de détail, on sent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Alors on continue avec ce joli thème de la pauvreté, c'est ça, avec une autre petite chronique qui, elle, s'appelle Manque de pauvres.
Manque de pauvres, c'est sans doute la vie de notre cher président qu'on n'a pas vu beaucoup dans sa vie et qui continue à les ignorer royalement, sauf quand il s'agit d'essayer de les prendre pour des pauvres, surtout des pauvres cons, pour essayer de les faire voter aux européennes. Alors Macron aime les pauvres, surtout s'il n'empêche pas de faire des cadeaux aux riches. Macron aime les pauvres à tel point qu'il n'hésite pas, et c'est quand même quelque chose d'assez remarquable et de sans doute unique dans les annales de la République, il n'hésite pas à reporter de 3 mois un plan sur la pauvreté à cause de la Coupe du Monde. Parce que sinon, ces fumiers de pauvres auraient pu gâcher la finale et la séquence de com' présidentielle. Donc l'annonce du plan anti-pauvreté a été reportée de 3 mois à cause d'une Coupe du Monde de football. C'est trop beau. Macron aime tellement les pauvres qu'il prévoit de leur distribuer environ 8 milliards sur 2 ou 3 ans. Dont une partie, d'ailleurs, ne sera pas payée par l'État, mais par les collectivités locales qui n'ont déjà plus d'argent. Tandis que la première année de pouvoir a représenté entre 45 et 50 milliards de cadeaux pour les plus riches. Donc 8 milliards sur 2 ou 3 ans, contre 45 à 50 milliards en un an, on voit l'équilibre, on voit qu'il y a un sacré coup de barre à gauche. Macron aime tellement les pauvres que cette obole sera en plus, il faut pas déconner, sera en plus donnée, mais uniquement sous de multiples conditions. Les riches, quand ils ont engrangé leurs milliards, on leur a rien demandé comme contrepartie. Mais les pauvres, pour toucher leurs minima sociaux, il faudra qu'ils donnent des contreparties. Il faudra qu'ils montrent patte blanche. Il faudra qu'ils soient bien disciplinés. Bref, comme n'oublierons pas de le dire les plus mitifs aux ordres du groupe Lagardère, un sacré coup de barre à gauche et un président vachement social.
Mais tu sais, tu pourrais travailler dans un journal de droite, Jean-Marc. C'est des titres exceptionnels. D'ailleurs, c'est même une critique, ça, de dire qu'être trop à gauche pour Macron. Hein. Fais attention, tu pourrais te faire virer d'un journal de droite. Alors, ça a laissé le temps à ce que tu partes sur ta nouvelle chronique. Et là, tu vas nous parler un peu quand même. On va sortir de France, on va en Syrie. Et là, je crois qu'il faut prendre le temps de bien écouter ce titre. Quand les faux culs font du gaz.
Et oui, les focus, ce sont bien sûr les Occidentaux qui, une fois de plus, sont en train de se ridiculiser et de se montrer extrêmement efficaces sur le dossier syrien. On nous annonce la fin de la guerre en Syrie, ce qui est probable, puisqu'il n'y a plus qu'une seule enclave qui appartienne mélangée à la rébellion ou aux djihadistes. On ne sait plus trop qui est qui dans ce bazar. Une victoire par chaos de Assad et Poutine qui bombardent allègrement et qui laisse à penser qu'on va assister à un dernier petit massacre quand même, avant d'arrêter une guerre aussi sympathique que celle de Syrie. Il faut bien se faire un petit massacre de masse. Alors ça nous horrifie une fois encore. Une fois de plus, les Occidentaux qui bandent leurs petits muscles diplomatiques pour éviter une catastrophe humanitaire. Évidemment, la guerre, ce ne sont que des catastrophes humanitaires. Ce ne sont pas des combats, ce ne sont pas des massacres, ce sont des catastrophes humanitaires maintenant. Ils menacent Poutine et Assad. S'ils franchissent la ligne rouge, cette fameuse ligne rouge, en utilisant les gaz de combat. C'est vrai, c'est laid, c'est moche, trop moche, pas joli les gaz de combat. Les bombardements à l'explosif, ça va, c'est la guerre, c'est chouette. Les grenades, ça va. Les barils d'explosifs, ça va. Les mitrailleuses, ça va. Les tanks, ça va. Les hélicos, ça va. C'est pas trop mignon, mais c'est acceptable, c'est la guerre. Et la guerre, comme disaient des penseurs méconnus des années 40, la guerre, ah, gros malheur! Les arrestations, les exécutions, les tortures, les viols, les mutilations, ce n'est pas bien, mais en même temps, c'est un peu une habitude culturelle en Syrie. Ça fait 50 ans que ça dure avec les Assad. Un peu comme une coutume locale, alors on laisse faire. Quand c'est la culture, faut pas toucher. Tout ça pour dire que les gaz, c'est vraiment pas bien, et que là, on va se fâcher très fort. Et si, on vous le garantit. Les diplomates et les chefs d'État occidentaux pourraient même se réunir pour faire non pas un, mais deux communiqués de suite, voire trois s'ils sont en forme. Pour dire un, que ce n'est vraiment pas bien. Deux, que c'est la dernière fois, hein, et que trois, à la prochaine guerre, on va voir ce qu'on va voir. Et ça, c'est très très fort, mais aussi très très moche. Parce que une fois encore, on néglige la santé de deux chefs d'État valeureux, Assad et Poutine, qui vont encore faire des insomnies à cause de ces abominables menaces occidentales. Bande de fumiers.
Je te trouve un petit peu méprisant, là. T'as oublié de parler de la réaction aussi sur le Yémen du gouvernement espagnol, qui ne voulait plus donner des bombes au gouvernement saoudien qui les utilise bêtement pour bombarder les populations civiles au Yémen. Donc ils en avaient fait quand même une partie de leur communication de début de gouvernement socialiste. Je crois qu'ils sont socialistes. Je vais mouler un peu. Le problème, c'est que l'Arabie saoudite a dit « Ah bah si j'ai pas les bombes, je vous achète plus pour 1,8 milliard de bateaux de guerre. » Bah hier, ils ont donné les bombes.
Alors qu'ils auraient pu tout simplement écrire sur les bombes « ne pas utiliser sur des populations » ou un truc comme
ne
ça. «
Ne pas jeter sur la voie publique ».
Voilà. Non mais on oublie toujours les solutions simples. Alors des solutions simples aussi, il y en a à aussi de regarder Macron sous le mauvais angle, regardons-le sous le bon angle, c'est-à-dire l'angle de Brigitte.
Alors l'angle de Brigitte est aussi du ridicule. Le ridicule ne tue pas. Hélas, parce que ça pourrait faire bouger la politique française. Le ridicule ne tue pas, sinon le couple présidentiel aurait pu passer l'arme à gauche et un sale quart d'heure. En effet, cette semaine, on apprend que Brigitte, la première dame de France, va faire une apparition dans une mini-série télé. C'est même pas une blague, elle va faire une apparition dans une mini-série télé. Comme quoi, quand on tombe dans les sondages, on tombe aussi très très bas dans le racolage. Je ne sais pas si elle est aussi bonne en n'actora qu'en présidentiala, mais ça risque d'être drôle. Pendant qu'elle va faire une prestation dans une série télé, son mari, grand amateur de pauvres, lance une ligne de produits dérivés de l'Élysée. Là non plus, ce n'est pas une blague. On pourrait croire que c'en est une. Eh ben non, ce n'est pas un sketch des inconnus. C'est la réalité. Une ligne de produits dérivés de l'Élysée, qui sont plus ou moins luxueux, souvent hors de prix, tous de très bon goût. Et qui ne montre pas du tout que le petit Emmanuel a le melon. Le petit Emmanuel, par exemple, dans sa gamme de produits dérivés, elle lance un t-shirt. Non, non, mais je rigole pas, c'est vrai. Hein. J'ai vu le modèle. Hein. Un t-shirt représentant en bleu, en blanc et en rouge trois silhouettes du président levant le poing lors de la Coupe du Monde.
Non, mais t'es tombé sur un fake, là.
Même pas.
Faut checker tes news.
Non, c'est pas un fake. Vous pourrez aller vérifier. Même Sarko n'avait pas osé. Mais les Macron, ça ose tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît.
Eh ben, tu nous embouches un coin, là. Alors, tu voulais nous parler aussi de politique, de la vraie politique, celle de politicien, quoi. Comment est-ce qu'on remplace un ministre par un autre ministre?
Alors, on remplace un hulot qui était un peu un bulot de la politique, même s'il était très populaire, c'est un bulot populaire, par un Rugy qui est un vieux pourri. Il n'est pas si vieux, mais il est tellement pourri qu'on a l'impression que c'est un vieux pourri. Après le ministère prétexte de Hulot, donc, le ministère est tombé entre les mains de Rugy. Alors, pourquoi de Rugy? Bah, parce qu'il fallait libérer la place pour Ferrand, puis qu'il va être mis en examen, et avant qu'il soit mis en examen, enfin, qu'il risque d'être mis en examen, il fallait qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Ça présente mieux pour être mis en examen. Donc, de Rugy, qui est un écolo opportuniste, qui s'est vendu.
Un opportuniste, quoi.
Non, il était écolo au départ.
Donc un écolo puis un opportuniste ou...
Non, je pense que c'est les deux en même temps. Sauf qu'à un moment, c'était porteur d'être écolo, donc il était écolo. Maintenant, il s'est vendu à la Macronie. Et puis demain, si autre chose est plus porteur, il se revendra, je n'ai pas de doute. Donc on lui avait donné le perchoir, histoire de faire croire que le gouvernement était écolo. C'était les deux pattes écolo de l'équipe de Macron. Hulot comme ministre et de Rugy au perchoir. Bon, sauf que y en a un qui a rien pu faire et l'autre qui ne veut rien faire. De Rugy est un ex-élu écolo, mais cela ne l'empêche pas d'être l'un des meilleurs courtisans de Macron, qui prévoit le redémarrage du bétonnage à tout va, la loi Elan, qui a reculé les échéances d'interdiction du glyphosate de plus de 3 ans, qui encense les chasseurs et leur donne des permis de chasse au rabais et plein d'avantages, qui va autoriser le projet de centre commercial aussi gigantesque qu'inutile au nord de Paris, sur des terres agricoles, parmi les plus riches de toute l'Île-de-France. Mais de Rugy, elle est chine servile. Bon, il a dû faire du yoga quand il était jeune parce qu'il plie très 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 bien le dos. Il est capable de faire 3 fois le tour de sa propre colonne vertébrale pour arriver à sucer le maître. La conscience aux abonnés absents et l'écologie plus sensible aux promotions qu'aux petits oiseaux. Rugy, le cireur de pompe, commence donc son ministère en prenant fait et cause. Là non plus, ce n'est pas un fake. Pour EDF, et il est en train de négocier pied à pied comme une bête. C'est une bête écologique, ce de Rugy, avec EDF pour n'avoir que 5 EPR au lieu de 6.
Il a bien précisé qu'il était écologiste pragmatique.
Alors, des EPR, évidemment, le nucléaire, il n'y a rien de plus écologique. Donc, le seul moyen de réduire les énergies fossiles d'après cet écolo de choc, bah, c'est le nucléaire. Donc, réduire les énergies fossiles, poil à Melville, merci de Rugy. Alors, je vais vous faire un petit poème, parce que Patrick n'est pas là. Alors, Rugy le finit. Pour un perchoir, c'est les séchoirs, et devint le pourri. Rugy, ah, je vomis. Pour un ministère, plus bas que terre, c'est encore avili. Plaise à Jupiter d'interrompre sa carrière, car de Rugy soupire de n'avoir plus rien à trahir. Plus vil encore que Besson, moins de cœur que d'ambition, Rugy est bien un traître nul, ignoble et sans scrupule.
Bravo. Bravo, bravo. Alors, moi aussi, j'ai un petit problème, c'est à Paris, à vélo, on dépasse les hulots.
Non. Alors les vélos en ville, c'est une vieille ancienne. Le gouvernement d'ailleurs vient de lancer un plan vélo encore super super écolo. Mais à Paris, ça fait longtemps qu'on le fait. Sauf que Delanoë l'avait fait avec un groupe bien connu capitaliste. Hidalgo a pris un autre groupe capitaliste qui s'est emmêlé les pinceaux. Ça fait 8 ou 9 mois que les Parisiens n'ont plus vraiment de vélo et ça va continuer encore minimum jusqu'au mois de mars prochain. Alors la France insoumise de Paris a eu une idée, c'est que finalement, les Parisiens avaient plébiscité l'usage du vélo et du Vélib, que c'était très pratique. Il y a plus de 300 000 abonnés qui n'ont plus de vélo, qui payent des abonnements pour rien, mais que ces 300 000 abonnés, sans doute plus si c'était mieux fait, surtout si on continue à limiter la circulation, ce serait pas mal d'en finir avec le capitalisme à Paris et à la place d'avoir des soi-disant socialistes qui prennent des gros capitalistes pour faire les Vélib, de faire une régie municipale des Vélib. Et qu'à ce moment-là, le Vélib soit municipal. Et c'est pour ça que la France Insoumise Paris lance une grande votation citoyenne à Paris pour demander la municipalisation des Vélib. Comme jadis, on a municipalisé l'eau.
À Paris uniquement. On va faire une chronique un petit peu plus triste pour terminer cette séquence d'actualité. On va parler d'un SMS que j'ai reçu de l'ami Jean-Yves, qu'on salue, et qui disait « Rachid Taha s'en est allé ». Alors, Rachid Taha, un peu plus tard, on l'a entendu sur France Info. Vous savez que France Info a d'abord annoncé le décès du rocker français, Rachid Taha. Puis juste après, au journal suivant, ils l'ont appelé l'artiste algérien. Oui, parce que Rachid Taha n'a jamais demandé la nationalité française, bien qu'il ait passé toute sa vie et une bonne partie de sa jeunesse, de son enfance en France. Mais cette hésitation entre France et Algérie, c'est pas une anecdote, hein. L'histoire a laissé des traces entre ce bout d'Europe qu'on appelle France et ce bout d'Afrique qu'on appelle Algérie. Et des traces faites d'êtres humains qui naissaient d'un côté ou de l'autre et puis se demandaient où ils étaient. Et être enfant, ou être né ou élevé en France, par des parents maghrébins dans les années 70 ou les années 80, c'était quoi? C'était être français car né en France, algérien car élevé par des parents algériens, français car élevé en France. Enfin, à cette époque-là, on n'était plus, après Giscard, on n'était plus de question de parler de primo-retour. La plupart d'entre eux étaient français car nés en France. Ils étaient français, ces petites têtes brunes. Et en 86, pourtant, la France vote pour le FN, 35 députés FN à l'Assemblée, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Il y a même un rapport qui propose que l'on supprime la possibilité automatique d'être français, même si on était né en France, au sens que l'acquisition simple par mariage ne va pas donner le droit aux enfants d'être français. C'était un projet de Jacques Chirac, tiens. Celui aussi qui, un peu plus tard, parlait encore du bruit et l'odeur. Hein. Mais cette France-là, dans les fins des années 80, on entend un petit peu moins parler. Et en 86, cette même année où le FN est à l'Assemblée, bah c'est les débuts de Rachid Taha avec son groupe qui s'appelait Carte de séjour et la reprise d'une chanson emblématique, hein, Douce France de Charles Trenet, qui, on le rappelle, date de 1943. C'est un peu particulier quand même pour parler de Douce France en 1943. C'est une chanson très nostalgique sur qu'est-ce que la France de notre enfance. Et le clip, d'ailleurs, de Rachid Taha, enfin, du groupe Carte de séjour, c'est d'essayer de mélanger des images de France ou d'Alger en disant, bah, finalement, dans ces années d'enfance, peut-être d'avant-guerre, cette douce France que Trainé parle, bah, c'est un petit peu la même, avec les mêmes voitures et, par contre, un petit peu plus pauvre, quand même, de l'autre côté de la Méditerranée. Et avec cette chanson, bah, ils font émerger sur la scène des gens qui n'étaient pas encore bien français dans les têtes, on les appelait même pas beurre, c'était des immigrés. Et pourtant, si on prend un journaliste du journal Libération, il dit que les chansons de Rachid Taha, c'est une partie de la bande-son de nos combats, de notre changement d'identité qui nous vit naître fils d'émigrés, devenus aujourd'hui français presque comme les autres, et c'est une part de cette bande-son qui s'en va.
Français de préférence.
Et depuis, ben, quand même, on a des Rachid Arab, présentateur vedette du journal TV, on a des condamnations d'un ministre de l'Intérieur pour un jeu raciste, Brice Hortefeux pour pas le citer, on a des ministres comme Kofi Annan, ou même carrément Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. C'est quand même une évolution massive qu'on n'avait pas quand Rachid a chanté en 86. Et ben, ce petit morceau d'Histoire de France, on devrait l'expliquer. Tout ce chemin parcouru en 30 ans, hein, de sortir pour cette population des voies de garage de fin de 5e ou de 3e, où on disait qu'on va peut-être pas aller au lycée quand même, ou l'impossibilité de rentrer en boîte de nuit si on était un jeune maghrébin ou arabe. Que de chemin parcouru, mais bon...
Sauf au maghrébin douche.
Oui, au maghrébin douche, c'était plus facile. Mais la bête immonde est toujours présente. Elle revient, nous dit-on, et et même outre-Rhin, on l'entend même marteler le pavé. Elle ghettoise dans les banlieues, elle ségrégationne dans les lycées. Alors, ben, réécoutons Rachid Taha, enfin, Carte de séjour, Douce France.
Il revient à ma mémoire des souvenirs farinés. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Alors justement, ATTAC, l'actualité altermondialiste depuis le 8 septembre et jusqu'à dimanche, c'est la semaine « Pas avec notre argent ».
Oui. Police nationale, milice du capital. Il y a des jours comme aujourd'hui où ce slogan de manif sonne très juste. Cette semaine, ATTAC fête à sa manière les 10 ans de la crise financière et plus précisément les 10 ans de la chute de la banque d'affaires Lehman Brothers. Des dizaines d'actions ont lieu partout en France et dans le monde.
Elles montent ou elles descendent, les actions?
pour prendre le contrôle de la finance et affirmer que plus un seul euro ne doit servir à financer le réchauffement climatique et la destruction de la planète ou alimenter la spéculation et l'évasion fiscale.
Et puis quoi encore ?
Et alors que les grandes banques visées, HSBC, Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, organisent l'évasion fiscale, financent des projets climaticides, eh bien, finalement, ce sont des militants associatifs qui dénonçaient cette situation, qui ont été emmenés par la police hier soir. Vers 23h, ils ont été arrêtés, 8 militants, et placés en garde à vue, puis libérés aujourd'hui au compte-gouttes au bout de 15 à 20 heures. Leur crime, c'est simplement d'avoir collé sur la vitrine d'une agence Société Générale des autocollants qui disaient juste la vérité. La Société Générale organise l'évasion fiscale, la Société Générale finance le réchauffement climatique.
Et en dernière nouvelle, Robert, 72 ans, vient juste de sortir après 19 heures, baladé entre plusieurs commissariats du 4e et du 3e. On sent bien une bonne envie de dire « ne touchez pas à nos banques hein, », quand même. Alors, la campagne, elle n'est pas que parisienne. Si vous voulez y participer encore demain et dimanche, il n'y a pas de problème. Vous avez sur le site d'Attaque toute la liste des actions possibles pour vous regrouper. Vous pouvez aussi le faire à titre individuel. L'idée est de ne pas mettre de stickers difficiles à décoller. En plus d'une vitrine en verre, un sticker, ça prend une minute. Mettre un petit peu de blanc sur une vitrine pour montrer l'opacité de ce qui se passe à l'intérieur. Bref, des actions, on va dire, bon enfant. C'est bizarre quand même que des flics soient aussi à cran face à du bon enfant.
Sinon, pour pas salir avec les autocollants, on peut mettre des papiers avec des clous.
Ouais, tu disais bon enfant. Toi, t'as déjà vu des enfants de 72 ans?
Alors, il n'y a pas que des 72 ans. Si vous allez sur le site, vous verrez toutes les photos. Il y a des jeunes, il y a tout. C'était juste pour rappeler à quel point à 72 ans, on a encore la grande joie de passer 19 heures dans des commissariats.
Douce France, cher pays de mon enfance.
Alors, on peut quand même dire un petit mot sur le pourquoi de ce pas avec notre argent. Hein, l'idée, c'est que la finance, qu'on disait être moribonde, bah, elle a été sauvée. Hein. Mais nous, nous avons été trahis. Parce que sur ces 10 dernières années, après l'effondrement de cette bulle financière, les gouvernements ont sauvé les banques. Mais c'est la population, c'est nous, et au détriment souvent du service public, qui avons payé le prix. On fait pourtant face à des enjeux urgents, sociaux, environnementaux, politiques. Si on regarde un petit peu les différents points qui ont posé problème, bah c'est que toutes ces banques couvrent des ultra-riches, des multinationales, qui recourent à toutes plein de techniques pour échapper à l'impôt. C'est une évasion fiscale massive qui représente un important manque à gagner pour nous, pour tous les services publics. Il y a beaucoup de banques qui le font, Gaël en citait certaines, mais si on veut donner quelques petits chiffres amusants, par exemple, Oxfam montre que les 20 plus grandes banques européennes déclarent dans les paradis fiscaux 26% de leurs bénéfices, 12% des chiffres d'affaires, même 7% de leurs employés. On se demande même, quand on ouvre paradis fiscal, il n'y a rien, c'est juste une boîte aux lettres. Bref, les bénéfices sont déclarés là où ils ne sont quasiment pas taxés. On a même mieux, hein. Attention, la Société Générale réussit à l'exploit de déclarer en Irlande un profit supérieur à son chiffre d'affaires. Alors là, s'il y avait un économiste autour de cette table, je pense qu'il mettrait un zéro pointé. Hein. BNP Paribas a 198 filiales implantées dans les paradis fiscaux. Alors est-ce que c'est possible, ça? On met des petits autocollants, est-ce que ça peut changer les choses? Alors oui, il y a eu des lois. En France, même si c'est une loi qui est tout à fait... améliorable, il y a une loi relative à ces questions, la loi sur le devoir de vigilance, qui inscrit dans l'arsenal juridique français le principe de la prééminence des droits humains fondamentaux sur les contraintes économiques et financières. Bon, elle n'a pas encore été bien utilisée, mais c'est déjà ça. On pourrait imaginer ainsi de voir des banques multinationales de plus en plus contraintes par l'obligation de transparence, surtout sur les flux financiers entre la maison mère et les filiales. C'est ça qui manque, c'est cet argument-là qui fait que, de toute façon, on peut faire des lois sur les banques sans que les filiales ne sont pas touchées. On s'en moque. Et ce serait essentiel pour dissuader les entreprises d'échapper à l'impôt. On peut aussi savoir et mesurer l'ampleur de l'évasion fiscale. Il faut donc se donner les moyens de sanctionner les fraudeurs. Alors que en France, les différents principes entre l'ISF ou autres ne permettent pas véritablement aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a même un article aujourd'hui dans la presse pour dire que le contrôle fiscal des entreprises a largement baissé depuis 30 ans. C'est une entreprise a beaucoup moins de chances d'avoir un contrôle fiscal, alors qu'il y a de plus en plus de fraude européenne.
Il y a plus de fonctionnaires.
Et ça va plus loin que ça, parce qu'on dépénalise la fraude fiscale. Ça, c'est intéressant. Moins d'inspecteurs, et quand on se fait attraper, plus de prison.
Donc il faut mettre des réglementations qui permettent d'en finir.
On a pas dépénalisé le cannabis.
Tu avais un petit temps de retard, c'est ça? Mais on n'en parlera pas. Des déréglementations pourraient être mises en place, combattre, des réglementations pour combattre les déréglementations qui permettraient d'en finir avec la délocalisation artificielle des profits pour stopper l'optimisation fiscale agressive. Il faut taxer les multinationales. Voilà, on a fait notre petit discours intermondialiste.
Les supprimer même.
Supprimer les multinationales?
Bah ouais.
Tu veux dire tout étatisé? Avec un vaste état mondial, c'est ça?
Non, mais peut-être supprimer ces super archi-vampires.
Alors ça va être un petit peu plus dur quand même que simplement taxer, mais...
Avec des autocollants, c'est sûr, mais il y a d'autres moyens. Hein.
Alors des moyens, ben, ils en ont eux. Hein. Ils en ont des puissants, et même c'est nous qui les ratifions. On appelle ça les traités de libre-échange.
Eh oui. Savez-vous quel anniversaire...
Mais vas-y, tu m'as traité.
Savez-vous quel anniversaire on fête vendredi prochain? En fait, les 1 an d'application provisoire du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et en fait, en 1 an, il ne s'est pas passé grand-chose, en particulier parce que les points les plus dangereux du CETA ne vont pas se concrétiser tout de suite. Mais la Commission européenne a quand même fait un site web où, pour chaque pays, elle dresse un bilan de ce qu'on a gagné en marché d'exportation et en emploi. Comme ça, j'ai appris que grâce au CETA, on exporte des pommes de Blagnac et de l'eau minérale vers le Canada. Et c'est vachement utile pour les Canadiens qui vont enfin goûter à ce fruit exotique et boire autre chose que de la neige fondue. Alors, comme je le disais, le CETA n'est appliqué que de manière provisoire. Alors, je ne sais pas si ça signifie que les Canadiens vont devoir éventuellement rendre les pommes, mais ça signifie surtout que le CETA doit encore être ratifié par le Parlement de chaque État membre de l'Union européenne. La plupart des États ont ratifié ou vont le faire sans problème. Mais ça coince en Italie, où le gouvernement a annoncé qu'il ne ratifierait pas le CETA. Et là, on a un problème intéressant. Parce que les traités de l'Union européenne n'envisagent tellement pas qu'un pays puisse refuser de ratifier un traité de libre-échange que si par hasard ça devait arriver, hein, les conséquences ne sont pas très claires. Si bien que Moscovici lui-même a d'abord dit que s'il n'y a pas de ratification, eh bien l'application provisoire perdure. Puis il est rentré chez lui, il a relu ses textes et il s'est corrigé. Et il a dit que si un État membre considère qu'il est dans l'impossibilité permanente et définitive de ratifier un accord commercial, alors il faut qu'il le notifie au Conseil, et alors l'accord, donc le CETA, tomberait à l'eau. Il faut quand même reconnaître les côtés positifs du fascisme en Italie.
Ils ont un problème avec l'eau là-bas. Ils veulent laisser les immigrés dedans, ils veulent y mettre aussi certains traités, c'est...
Oui, mais bon, voilà...
J'ai fait une remarque intéressante quand même.
Et à propos de fascisme, ça fait un moment qu'on m'interdit dans cette émission, de manière insidieuse, de parler des accords de libre-échange. Et à force, eh ben, le JEFTA est signé et on n'en a jamais parlé. Alors pour ne pas décevoir les milliers d'auditrices et d'auditeurs qui réclament des infos dessus, j'ai des courriers des auditeurs hein, qui réclament des infos sur le JEFTA, qui demandent pourquoi on n'a pas parlé du JEFTA. Eh bien, je vais en parler, messieurs les censeurs. Donc le JEFTA, c'est...
Qu'est-ce qu'il vient faire là, l'ascenseur ?
Le JEFTA, c'est l'accord de libre-échange avec le Japon. Alors comme toujours, il s'agit de développer les échanges de biens, de services et de capitaux pour faire de la croissance et donc du bonheur généralisé. Je résume un peu, mais Alexandre pourra développer.
Je confirme. Et comme chacun sait, c'est ni bon ni mauvais.
Merci. Le JEFTA a été signé en juillet et sera ratifié par le Parlement européen en décembre. Il est à peu près aussi dangereux que le CETA pour l'environnement, l'agriculture, les services publics et la démocratie.
Alors surtout les baleines.
Aussi. En ce moment, et donc les fabricants de corsets s'inquiètent. En ce moment, le texte passe par la commission commerce international du Parlement et le rapporteur de la commission est très optimiste. Pour lui, le JEFTA est complètement en phase avec, je cite, l'objectif européen de créer une croissance intelligente, durable et inclusive. Bon, il note quand même un petit problème, c'est que le Japon tarde à ratifier certaines conventions de l'OIT, et notamment la convention 111 sur la discrimination en matière d'emploi et la convention 105 sur l'abolition du travail forcé. Mais à part ça, les Japonais sont des gens très bien avec qui nous allons nous engager sur un accord de libre-échange. Alors pour le JEFTA, il n'y aura pas de ratification par les parlements nationaux. Donc, si vous ne secouez pas vos eurodéputés, dès décembre, c'est plié et on aura le JEFTA. Et là, vous me demandez...
Mais pourquoi les parlements nationaux votent sur le CETA et pas sur le JEFTA ?
Parce que le JEFTA, contrairement au CETA, ne comporte pas de mécanisme de protection des investissements.
Ah, mais Mais c'est quoi un mécanisme de protection des investissements?
Alors, imaginez.
C'est un préservatif pour homme d'affaires.
Voilà. En plus détaillé, imaginez que vous investissiez dans un pays avec un SMIC à 1 euro de l'heure. Vous faites votre business plan sur cette base et vous avez promis à vos actionnaires une rentabilité record. Et là, un Mélenchon local arrive au pouvoir et porte le SMIC à 10 euros. Et s'il y a un mécanisme de protection des investissements, voilà, vous attaquez devant un tribunal spécial en vous plaignant que ça dégrade les profits escomptés. Et comme le tribunal ne juge pas selon les lois du pays, mais selon les règles des accords de libre-échange, qui sont plutôt pro-business, et que le tribunal est composé d'hommes d'avocats d'affaires, eh bien vous avez de grandes chances de gagner. Donc là, quand j'ai dit ça, tout le monde autour de la table, je vois, est complètement soulagé que le GEFTA ne comporte pas de mécanisme de protection des investissements. Mais, ne vous réjouissez pas trop vite. Parce que l'Union européenne est en train de négocier avec tous ses partenaires commerciaux la création d'une cour multilatérale sur l'investissement qui permettrait de faire un tribunal sur l'investissement du même type pour tous les accords de libre-échange, dont le GEFTA. Et c'est pas fini, puisque avec les États-Unis, on a fait semblant d'arrêter de négocier le TAFTA, on a fait semblant de faire une guerre commerciale, mais en réalité, les négociations n'ont jamais réellement cessé et on se dirige vers un TAFTA light. Avec le Mercosur, on négocie depuis 20 ans un traité de libre-échange et on devrait bientôt, normalement avant la fin de l'année, arriver à un accord. Et puis, il y a plein d'autres accords de libre-échange avec des petits pays. Donc, nous sommes bien partis pour un grand marché mondial où on pourra jouir sans entrave de son capital.
Et jouir pour une émission 69, c'est essentiel. Mais nous allons écouter ceux qui se gavent, c'est-à-dire les chasseurs, non ?
Oui.
Le banquet des chasseurs par
Java.
Oui, oui. L'état à l'hôpital agréé. Non, attendez, voir. Autrement, j'étais au banquet des chasseurs. J'ai tombé de.
.3, fréquence paille pluriel, l'émission mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous allons écouter la rubrique économique, les pages roses de l'émission.
Saumon,
par le professeur Alex.
Fumé ou pas fumé?
Comme tu veux. Moi j'aime bien. Ouais, fumé c'est bien.
Eh bien, en fumant, nous écoutons le peso.
Alors, bah évidemment, je vais parler de la rechute de la maison argentine. Vous avez des souvenirs, peut-être, pour les plus anciens, des années 80, des périodes d'hyperinflation de l'Argentine.
Juste après la dictature.
Juste après la dictature, voilà, les débuts de Carlos Menem. Et oui, je parle bien dans le micro, oui. Oui, oui. Apparemment, c'est peut-être parti pour un tour. Alors, nous avons Macron. Les Argentins, ils ont Macri. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en sont pas...
Jean-Pierre Macri ?
Mauricio. Alors Mauricio, il est un petit peu plus vieux que...
Argentine et dépendance ?
C'est un peu ça, oui. Il a eu trois femmes, il en est à sa troisième. Il a 20 ans de plus que Macron, il a des beaux cheveux blancs.
Sa femme a 108 ans, alors ?
Et sa femme, non, lui, il fait à l'ancienne, sa femme est plus jeune. Et donc, ils en sont pas particulièrement contents parce que la situation économique est particulièrement dramatique. En 6 mois, le peso, comme vous avez probablement vu, a perdu 50% de sa valeur par rapport au dollar. Les prévisions de croissance de l'économie argentine, qui il y a quelques mois était à 3,8, plus 3,8%, c'est passé à moins 1%. La pauvreté a augmenté, qui touche à peu près un tiers de la population. Et ça continue d'augmenter, ça devrait continuer d'augmenter.
Là, on rigole moins. Hein.
L'inflation qui est forte en général en Argentine est repartie à la hausse.
Bah, alors, si un tiers de pauvres en Argentine, on rigole, ils ont l'habitude de 50.
On était descendu, ce qui était exceptionnel pour l'Argentine ces dernières années, on était descendu à 18% d'inflation. Et là, on devrait approcher les 40% d'inflation. Et ça continue de monter.
C'est pas pour défendre la dictature, mais quand même, du temps de la dictature, ça allait mieux. Hein.
Oui, non, on était à 1000% d'inflation. Et donc, donc sans doute 40%, et ce qui est quand même plus que dans la période de Kirchner. Donc voilà, Macri a été élu pour sortir des années Kirchner, et actuellement le tableau est très très sombre. Et pourtant Macri, contrairement à Maduro au Venezuela, qui est beaucoup critiqué en ce moment, est ce qu'on appelle sur BFM Business ou dans The Economist, mes références à moi, un bon élève, comme Macron. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, le problème c'est que justement Macri est un très bon élève. Quand il arrive au pouvoir fin 2015, la situation économique est franchement morose. Croissance faible, voire inexistante, inflation persistante, balance commerciale légèrement déficitaire. Donc du coup il propose un plan de redressement, un choc qui doit faire repartir l'économie argentine. Et alors pourquoi un choc ? Pour comprendre, il faut revenir loin en arrière. Il faut revenir au moins à 98. À ce moment-là, les libéraux qui sont au pouvoir, pour lutter contre l'inflation, au milieu des années 90, avaient imaginé un système qu'on appelle le currency board, qui permettait de lier
C'est vachement espagnol, ça.
Oui, complètement, complètement. D'ailleurs, c'est une idée norte-americana, comme on dit là-bas. Et donc, qui permettait de lier le peso argentin au dollar. Un dollar égale un peso. Et le système était sur le papier parfait. Pour chaque peso créé, il fallait un dollar en contrepartie. Donc, il n'y avait que les excédents commerciaux, des dollars gagnés en exportant des productions argentines ou des investissements en dollars réalisés par des étrangers qui autorisaient la Banque centrale argentine à créer des pesos. Avec ce système, en principe, plus d'inflation. Et d'ailleurs, au milieu des années 90, c'est la seule période dans l'histoire de l'Argentine où il n'y a quasiment pas d'inflation.
Ce serait pas un peu le système du docteur Chartres en 1925 ?
Je ne te suis pas, je continue. Il devient impossible de créer trop de monnaie. Chaque peso est garanti par l'arrivée d'un dollar dans l'économie argentine. Las, comme on le sait, ce système s'est brutalement écroulé. On n'avait pas pensé à tout. Le dollar s'est mis à grimper à la fin des années 1990. Les exportations argentines, bah comme le peso était lié au dollar, sont devenues mécaniquement beaucoup plus chères. Et l'Argentine n'arrivait plus à exporter. Les dollars, du coup, ne rentraient plus. La monnaie argentine a tenu un certain temps et puis a sombré. Et on est reparti dans l'hyperinflation. Chute de la production, chute des revenus.
D'où l'expression argentine, mieux vaut dollar que jamais.
Pas mal. Mieux vaut dollar que jamais, je la retiens. Les Kirchner sont arrivés au pouvoir à ce moment-là, alors que l'économie argentine était en voie de complète destruction. Ils ont fait tout le contraire, ils ont fait les mauvais élèves. Ils ont abandonné le currency board, ils ont renoncé aux aides du FMI, ils ont dévalué la monnaie pour relancer les exportations, ils ont refusé de rembourser une certaine partie de la dette, notamment celle auprès des fous en vautour. C'était des mauvais élèves, mais avec des très bons résultats. En utilisant les mauvaises recettes, avec un peu de protectionnisme, des nationalisations, un contrôle des capitaux, ils ont relancé l'économie argentine. Il y a eu 2003, 2004, 2005, des croissances à 8-9%. En 2005, l'Argentine était enfin sortie de la crise. Mais comme le savent tous ceux qui suivent BFM Business ou lisent The Economist, ces solutions ne sont pas bonnes. Le contrôle des capitaux et le protectionnisme détruisent la confiance des investisseurs internationaux et empêchent les entreprises argentines de gagner en compétitivité faute d'incitation à le faire. Et effectivement, en 2015, la situation économique ne pouvait que donner raison à BFM et à The Economist, quand, justement, Macri a été élu. L'économie argentine était moins compétitive, l'inflation continuait de sévir, les exportations battaient de l'aile. Tel fut le constat de Macri, il fallait rouvrir le pays. Et donc la première chose qu'a fait le Macron argentin a été de regagner la confiance des investisseurs internationaux en payant les fonds retour, ce qui a fait grimper la dette publique de 30 points.
D'où la chanson « El Condor Pasa ».
C'est ça. En privatisant à tout va et en diminuant les dépenses budgétaires. L'idée était de transformer l'économie argentine en économie 2.0 du jour au lendemain. Plus de déficit budgétaire en licenciant les fonctionnaires inutiles, plus d'inflation grâce à des baisses d'impôts et à des économies...
Moi, c'est un pléonasme, un fonctionnaire est toujours inutile pour un libéral.
Plus d'inflation grâce à des baisses d'impôts et à des économies budgétaires et plein de dollars qui, logiquement, auraient dû affluer et être investis en Argentine.
Ce serait pas la théorie du ruissellement ?
C'est la version internationalisée de la théorie du ruissellement. Las, les choses ne se sont point passées ainsi. Moins de dépenses budgétaires et moins de fonctionnaires, c'est aussi moins de consommation, ce qui peut conduire à la récession, laquelle peut conduire à moins de rentrées budgétaires et donc... un déficit qui, pour être comblé, appelle plus d'austérité, qui elle-même produit de la récession, etc. Ceux qui ont suivi la crise grecque savent de quoi je parle. Et c'est précisément ce qui s'est passé en 2016.
Ça existe, le kebab argentin ?
Oui, mais c'est avec du bœuf.
On parle aussi de grec brésilien. Voilà, enfin bon. chypriote chilien. Chili con chypriote. C'est ce qui s'est passé en 2016, mais en 2017, là, miracle, c'est l'année miracle de Macri. La potion amère du docteur Macri a fonctionné. Une croissance à plus de 2%, un déficit budgétaire en baisse, une inflation qui descend enfin en dessous des 20%. Fin 2017, malgré les grèves et les mouvements sociaux, Macri donnait l'impression d'avoir réussi. Il avait gagné son pari. Las, 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 triple las. Un grain de sable s'est infiltré dans la machine. La Fed, la Banque centrale américaine, a décidé de relever ses taux directeurs de 1,5% à 2%. Petite cause, grands effets. Les dollars, au lieu de s'investir en Argentine, dans une Argentine limitée mais méritante, ont été placés dans les bons du Trésor américain qui rapportaient vachement plus. Faute de dollars neufs, la solution Macri, comme en 98, a tourné à la catastrophe. Les effets récessifs de la rigueur, diminution des dépenses budgétaires, licenciement de fonctionnaires, etc., n'ont plus été compensés par des investissements extérieurs. Les dollars gagnés à l'exportation, au lieu d'être investis comme ils auraient dû l'être en Argentine, ont été investis aux États-Unis dans les bons du Trésor américain. Alors là, petite explication, pour un céréalier argentin, parce qu'il faut savoir que plus de la moitié des exportations de l'Argentine, c'est du bœuf et du blé.
Bah, je croyais qu'ils n'avaient pas d'argent, tu dis qu'ils exportent du blé.
Ouais, tout le paradoxe est là. Pour un céréalier argentin qui exporte son blé, il faut pas garder des pesos. Donc garder des pesos, alors que l'inflation est autour de 20% par an, ça n'a aucun intérêt économique. Il vaut mieux le placer aux États-Unis et le rapatrier quand on en a besoin. Parce que du coup, il n'aura pas perdu sa valeur. Et alors, ben, le contrôle des capitaux qui avait été mis en place par Kirchner, ce truc affreux qu'on a abandonné en France au début des années 80, ben, ça permettait d'éviter ce problème-là. Ça empêchait les gens d'exporter facilement leur blé. Surtout quand c'était sous la forme de dollars. Mais hélas, il a été jeté avec l'eau du bain des réformes. Et oui, mais du coup, je perds mon fil, moi. Bref, ce qui s'est passé, ce qui devait se passer, s'est passé. Ce qui devait se passer, s'est passé. Et, comme on le sait, l'économie argentine se retrouve dans une situation particulièrement compliquée. Il y a 2 jours, ou 3, Macron a annoncé un grand plan d'austérité pour rétablir la confiance, pour faire repartir l'économie. Alors attention, accrochez-vous bien. Le nombre de ministères, qui était de 22, a été divisé par 2. Il n'y en aura plus que 11. Toutes les taxes ont été augmentées. Oui, voilà, c'est ça. On va changer une équipe qui perd. Toutes les taxes ont été augmentées, dont on a remis en place des taxes à l'exportation. Alors, je ne sais pas si vous réalisez la stupidité du truc. C'est-à-dire que même Mauricio Macri explique lui-même que c'est un impôt particulièrement stupide. Une taxe à l'exportation, c'est quand des entreprises argentines arrivent enfin à exporter des choses, alors que justement l'Argentine a un petit problème de compétitivité, on va leur piquer de l'argent. Ce qui fait que donc du coup ça va coûter plus cher à l'exportation, donc il va y avoir moins de chances d'exporter. Et enfin, pour limiter l'inflation, les taux d'intérêt, et là c'est le record du monde, les taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale Argentine ont été portés à 60%. Autrement dit, le taux minimal d'un emprunt pour quelqu'un qui voudrait investir en Argentine, par exemple acheter une maison, moderniser son entreprise, et à faire payer au minimum 60% par an. Accrochez-vous bien. Macron, en conclusion, je dirais que Macron a quitté le sentier emprunté par les Kirchner, sentier bucolique mais qui menait pas à grand-chose, pour prendre l'autoroute de la modernité et emmener visiblement l'Argentine en enfer.
Eh ben, si on veut une bonne petite conclusion, comme le dit une auditrice sur notre tweet, Macri, Macron, c'est comme chapi-chapeau, quoi.
C'est ça.
Alors, et comme on dit dans la pampa, c'est les bolasses. Hein.
Oh là là. Alors, on va pas s'aventurer sur ce chemin. On finit par une petite chronique sur Macron, quoi. Parce que en écoutant Macron et ses affidés à l'Assemblée ou au gouvernement, moi, je leur trouve un point commun. Enfin, je veux dire, un point commun en plus d'aimer le pouvoir et la célébrité, je veux dire.
Un programme commun?
Un point commun. Un point commun qu'on voit bien dans le petit commissure d'élèves, là. C'est le mépris. Parce que, c'est pas de moi, hein, c'est Sandra Laugier, professeure de philosophie à Paris 1, qui, dans Libération, le traite même ce gouvernement d'indifférence, voire de malveillance. Alors, moi, au début, je me disais, c'est un gouvernement de droite. Ils aiment pas les pauvres et les immigrés. c'est classique, quoi. Ils sont riches et blancs, ils aiment pas les Arabes pauvres, quoi. Mais non, ça s'est accumulé. Regardez, par exemple, le plaisir qu'a le gouvernement à brimer ses propres députés. Ils les ont élus, ils les ont fait élire, mais au quotidien. Et le mot mépris est faible, hein. Ils sont anéantis, ils doivent rester sages, ils doivent rester bien droits dans leur vote.
C'est pas des députés, c'est des prête-noms.
Et puis, Parcoursup aussi, une bonne part du gouvernement, dont Macron lui-même, est passé par l'université. Et c'est quoi cette gestion ridicule de l'admission à l'université, comme on l'a montré dans notre dernière émission du mois de juin? La politique de Macron, c'est celle de l'indifférence. Il y a des dizaines de milliers de bacheliers qui imaginaient sans doute que leur diplôme leur donnerait accès à tout le savoir de l'enseignement supérieur, mais ils sont sur le carreau. Soit ils ont rien, soit ils ont un choix négatif ou différent de ce qu'ils voulaient. Hein, même le Canard Enchaîné titrait « Le parcours supplice ». À tel point que les jeunes banlieusards désespérés sont issus des bonnes facs et des écoles par ce système. Et même au-delà de la bataille des chiffres, c'est une révolution constamment réactionnaire, conservatrice. On met tout simplement fin aux promesses portées par tout ce qui était la démocratisation de l'enseignement supérieur à travers cette symbolique méchante, malveillante de Parcoursup. Et cette indifférence radicale aussi par rapport à toutes les familles ou tous les jeunes mis dans leur mention, ils vont truquer les chiffres pour dire « mais non, regardez, tout va bien ». Rappelons-nous des APL, il y a un an, lorsqu'une élue LRM, La République En Marche, pour dire que la baisse des APL, c'était rien. Oui, vous chouinez là, 18-19 ans, pour 5 euros par mois, mais qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, a-t-elle dit, si pour 5 euros, vous n'arrivez pas à faire votre quotidien.
Ah, si à 18 ans, ils sont à 5 euros pour les APL, à 50 ans, ils n'auront pas une Rolex, hein. C'est des minables.
C'est exactement ça. C'est une expression crue et moralisante d'une position sociale où on n'a pas à se préoccuper de 5 euros, voyons, qu'est-ce que c'est ça. C'est même immoral, cette phrase. De même, les députés de La République En Marche, encore eux, après les tentatives d'opposition pour la loi travail, qui trouvaient absolument ridicules les amendements, qui pourtant parlaient de quoi? Qui parlaient de défense du droit des travailleurs, du droit de chacun et de tous les impacts sur les mesures votées. Et même pour, si on veut aller sur la loi à l'époque de travail, toute la jeunesse dans la rue, c'est un mépris, alors là, bien classique d'aller taper sur le jeune ou le moins jeune opposant à sa politique. Et même les lois hier, les propositions de mesures de Macron qui met les mesures sociales d'aide à un féodé à être un bon chômeur. C'est-à-dire celui qui va au bout de deux propositions prendre le premier boulot de merde qui passe. C'est vraiment un féodé. Même ce qui est naturel d'avoir une aide sociale, un féodé a un bon comportement jugé par un gouvernement qui, lui, les méprise. Pour eux, le vieux monde doit disparaître, c'est leur expression. Et c'est quoi leur nouveau monde? C'est celui qui détruit la fonction publique en pensant qu'une entreprise privée sera plus efficace pour faire de la culture ou du sport? C'est les dernières nouvelles de ces semaines.
C'est le principe des dames macronesses. Joli.
C'est beau, c'est très joli. Ouais. Ou celui où on pense que les entreprises d'agronomie vont gentiment mettre en place tous les principes anti-malbouffe, là, vu qu'ils n'ont pas voulu voter la réglementation des couleurs. On va penser que les entreprises, brutalement, vont mettre en place tout ça, puis à leurs frais, bien entendu. Ils vont décider du jour au lendemain de faire mieux, moins gras, etc. Et puis cette valse comique autour de Benalla, qui démontre un mépris pour là, même ce que parfois d'autres méprisent, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Hein, Macron a outrepassé tous les systèmes, tous les principes de règles de la gendarmerie et de la police pour savoir qui protège le président, et voire même donner des promotions immédiates dans les corps de ces cadres de l'État pour ses amis. Et puis surtout, est-ce qu'on n'oubliera pas cette accumulation de mensonges là? C'est un Trump à la française. À chaque fois qu'on le met au pied du mur, non, c'est mensonge, c'est contourné. Il a même invité Benalla pour le faire applaudir à l'Élysée quand il a dû méchamment pour lui l'envoyer pour ramener loin des clés de sa voiture. Tout ça, c'est immoral. C'est immoral. Et puis, c'est quoi la phrase de ce gouvernement résumée par Macron? C'est j'assume. C'est pas j'accuse. Hein. C'est j'assume. Ça veut dire quoi son j'assume? C'est pas assumé, comme fait remarquer Sophie Laugier.
Non, c'est parce qu'il est poli. Il serait moins poli. Il serait comme Trump. Il dirait je vous emmerde.
Exact.
Mais comme il est très policé, il dit j'assume.
J'assume. Son j'assume, si c'était assumé, c'est-à-dire qu'il prendrait ses responsabilités. Il dirait j'ai fait une erreur ou une faute. Non, j'assume, c'est j'ai raison. Ou je m'en tape en bon roi que je suis.
Hein. En fait, depuis Les Misérables, on sait que le riche est irresponsable et que le pauvre paye.
En fait, il finit pas sa phrase. Il dit « J'assume de vous emmerder ».
Alors on va peut-être conclure, vu que c'est l'heure. Hein. S'il faut aujourd'hui combattre en Europe les progrès du fascisme, hein, qui sonne outre-Rhin de la plus mauvaise façon et qui sonne aussi en France au quotidien. Eh bien, comment combattre le fascisme? Ben, c'est en faisant l'inverse. C'est en ayant le souci d'autrui. C'est protéger les faibles devant les forts. C'est reconnaître que tous contribuent, qu'on soit pas ou peu ou pas premier de cordée. Hein, c'est par permettre à chacun de vivre correctement et dignement. Ça va comme conclusion?
Ça voilà. Va.
Eh ben, on va écouter une petite chanson pour terminer, après avoir remercié nos chroniqueurs, Jean-Marc, Alex, Gaël. À la technique, on avait à la fois Claude et Gilles. Et Ludo, pardon, qu'est-ce que je raconte? Chaque fois, je me trompe de prénom, c'est terrifiant. On fait un petit coucou dans nos têtes à l'ami Jean-Yves. Et puis, on est fini en écoutant Oscar Peterson, un issu de l'album We Get Requests.